France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Bonjour à tous. A-t-on encore le droit de rêver? C'est presque l'ultime question posée par Brasil, film inclassable entre SF, burlesque et fable moderne, sorti en 1985, alors qu'Internet n'existait presque pas. Surveillance généralisée, bureaucratie, travail aliénant, ville monstre, la dystopie est à son comble dans ce chef-d'œuvre mi-kafkaïen, mi-orwellien du cinéaste Terry Gilliam, le britannique des Monty Python. Près de 40 ans après sa sortie, Brasil nous rappelle qu'un autre monde est possible, beaucoup moins enviable, beaucoup moins vivable que le nôtre, et à un moindre degré toute ressemblance avec des faits réels existants aujourd'hui ne serait pas fortuite, nous dirait le scénariste réalisateur de ce film. Voilà pourquoi, en choisissant de revenir aux sources du 7e art pour cette collection des 10 films qui ont changé le monde, nous avons opté pour Brasil. Brasil, le film dont Jonathan Pryce est le héros, et De Niro, le chauffagiste ninja rebelle Harry Tuttle. Quelle vision du cinéma porte Terry Gilliam avec Brasil? Comment son film a-t-il marqué nos imaginaires? Quelle empreinte a-t-il laissé sur notre rétine? On est ensemble pour une heure de discussion loufoque et rationnelle qui ne pouvait commencer que comme ça, par une idée, une vision, telle qu'elle a surgi dans l'esprit du réalisateur et co-scénariste de Brasil, à Port Talbot, ville industrielle et portuaire du Pays de Galles, et une samba brésilienne.
Je voulais donner un avis, une vision moderne de 1984. J'avais aussi beaucoup de haine contre le monde que j'essayais d'extirper de mon système. Du coup, j'ai commencé à penser à Brasil. J'étais à Port Talbot, et le soleil se couchait, et sa magnifique lumière dorée couvrait cet horrible monde noir et mécanique, semblable à une machine. Et j'ai eu cette vision d'un homme assis là avec une radio. Alors qu'il ajustait sa radio, il a capté cette magnifique chanson d'amour latino-américaine et il n'a jamais rien entendu de ce genre dans sa vie. C'était un tel contraste avec le monde dans lequel il vivait qu'il devint obsédé par cette musique, par l'existence de cet autre monde d'où viendrait cette musique.
Une idée, une fulgurance, et cette musique dans les oreilles d'un homme qu'il voit là, à cet endroit-là, et c'est de cette musique, reprise du thème Brasil de Harry Barroso, que le titre Brasil est né pour ce film, racontant le décalage entre le rêve qu'elle suscite et la réalité qui nous entoure. Un titre si unique qu'il est entré dans le langage courant pour qualifier un monde absurde et étouffant. C'est Brasil, dit-on. Trois spectateurs cinéphiles avec nous aujourd'hui pour en parler. Le cinéaste Stéphane Brisé, bonjour.
Bonjour.
Réalisateur de La Loi du Marché, de En Guerre ou encore de Un Autre Monde. Philippe Sisban, réalisateur, scénariste et producteur, co-auteur de Les Ophnies du cinéma fantastique et de SF aux éditions Terre de Brume. Ophnies comme objet filmique non identifié, mais également d'un autre livre, 101 ou 101 chansons pour évoquer celle-là. Bonjour à vous, Philippe Sisban.
Bonjour.
Et le traducteur et essayiste Patrick Marcel, auteur entre autres de Monty Python, petit précis d'iconoclasme paru aux éditions Mouton Électrique, et pas éclectique, même s'ils le sont aussi vos moutons. Bonjour
tout
à vous.
Tout à fait.
Bonjour. On commence par la fiche technique de ce film Brasil, film en couleur de 1985, de plus de 2h23. Et on entre tout de suite dans l'univers bien tamponné de Brasil avec un premier extrait tampon.
Next.
I want to report a wrongful arrest.
You want information adjustments, different department.
I've been to information adjustments. They sent me here. They said you have a form I need to fill out.
Have you got an arrest receipt?
Yeah.
Is it stamped?
Stamped?
No, there's no stamp on it, you see. I can't let you have the form until this is stamped.
Where do I get it stamped?
Information adjustments.
It's nothing, it's nothing.
Voilà, on a l'ambiance principale de ce film, Brésil, celle des tampons et des formulaires qui glissent dans la machine. On commence avec vous et cette première ambiance, peut-être, Patrick Marcel, qui campe un décor certes sonore, mais aussi visuel, on imagine tout à fait la scène.
C'est un décor très grand. Très grand. Guillaume a choisi des tas de... Alors, il a tourné en studio, bien sûr, mais il a aussi choisi des lieux extrêmement spectaculaires. Il a été dans le puits nucléaire de Hinkley Point, et puis l'usine électrique londonienne.
La tour de refroidissement, oui.
Oui, non, ça, c'est la tour de refroidissement pour l'usine de Hinkley Point.
Oui, puis il y a l'usine de farine aussi, où il a tourné.
Ouais. Des lieux très grands, et en rajoutant quelques... accessoires, il les transforme en une architecture fascisto, art déco, bizarro,
néoclassique.
Voilà. C'est, il a aussi beaucoup à ajouter, ça c'est un élément important du film, de tuyaux. Il y a des tuyauteries partout. D'après ce qu'il a expliqué, c'est parce qu'à l'époque, c'était devenu une espèce de maladie. Il y avait des tuyaux, il y a eu Beaubourg, il a été très frappé par Beaubourg. Mmh. Et en même temps, il y avait beaucoup de maisons qui étaient restaurées, mais en même temps, elles avaient ces tuyaux extérieurs. Et ça, il a extrapolé avec ces tuyaux qui sont partout. On commence le film, d'ailleurs, avec une publicité pour avoir de beaux tuyaux qui vont flatter votre intérieur.
Voilà, vous êtes parti tout de suite sur les décors, et c'est vrai qu'ils sont fantastiques et impressionnants dans ce film Brésil, ceux de cette mégapole inspirée, on l'a dit aussi, on l'imagine, de Métropolis, par Terry Gilliam. On l'écoute parler de ces viscères, en fait, de ces viscères de la ville.
I've always had an obsession with viscera. The things inside, the things that are under the surface. So,
j'ai toujours été obsédé par les viscères, les choses à l'intérieur qui sont sous la surface. J'ai fait de cet endroit une sorte d'organisme vivant, cette grosse machine qu'est la ville. C'est un mélange de machines et de viscères organiques. Et elles ont leur propre vie. Mon impression, c'est que dans Brésil, tous ces tuyaux sont les entrailles, mais aussi le système nerveux, la communication entre les choses. Et je pense que le monde de Brésil, c'est comme l'intérieur d'un corps, ce corps social, cette civilisation que nous avons créée. Je pense que maintenant, il y a sans doute plus de merde que d'informations qui passent par le tube catholique. J'aime l'idée que l'on reconnaisse l'importance de la merde dans le monde.
Voilà, un monde viscéral tel que le décrit à l'instant Terry Gilliam, cette idée du corps social, hein, représenté aussi par la ville et par l'architecture, Stéphane Brisé, Philippe Sisban.
On le ressent physiquement, ouais. Cette histoire de corps, de l'idée d'un, voilà, de réduire à l'échelle d'un individu, ce monde, le chaos de ce monde, on le ressent très très physiquement. Quand on voit le film, l'enchevêtrement de tous ces tuyaux, et là, quand il parle de merde aussi, c'est qu'à un moment, ça prend de la place dans le film, et c'est un élément, un moment de la narration. C'est puissant visuellement et c'est puissant organiquement.
Oui, il y a ce qui passe par le tube cathodique, hein, tel qu'il l'a dit.
Les tuyaux, on les voit pas, on les voit moins en tout cas chez les gens qui font partie des classes supérieures, puisqu'ils sont cachés dans les murs chez Sam Lowry, alors qu'ils traversent tous les décors des pauvres et des victimes du système.
Il a cette conception du décor, de la ville, de l'architecture, et on retrouve aussi dans l'importance qu'il évoquait sur l'idée originelle du film, hein, l'importance de planter ce décor extrêmement froid, glacial, tortueux, avec cette musique totalement chaude, lumineuse, cette samba qui donne son titre au film. Hein.
Conçu pourtant un soir d'orage par son créateur en 1939, totalement inconnu suite à cette création, mais révélée par Walt Disney dans Saludos Amigos, et devenue le premier grand succès dans les charts américains, le premier grand succès brésilien.
Et après quel film? Après le Disney?
Oui, ouais. Après Saludos Amigos, donc après 42, c'est-à-dire 3-4 ans après avoir été créé par l'auteur. Ça n'avait même pas fait partie du Carnaval de Rio. Pourtant, aujourd'hui, c'est quasiment devenu l'hymne bis du Brésil.
Et voilà, et Terry Gilliam le reprend des années après, en fait.
Et là, il l'a fait naître une deuxième fois, pour ainsi dire, puisque Saludos Amigos, ça a commencé à dater, et maintenant tout le monde connaît
la musique. Brésil. Ouais.
Et les gens ne disent plus, effectivement, devant une situation absurde, c'est kafkaïen. Ils disent c'est Brésil.
C'est exactement. L'histoire ensuite, celle d'un employé du ministère de l'Information, Sam Lowry, qui refuse toute promotion, poursuit la femme qu'il a vue en rêve jusqu'au jour où sa vie sans histoire va virer au cauchemar. Sam, il est clairement le protagoniste névralgique du film. On écoute là encore Terry Gilliam parler de son personnage.
To me, there was Sam, who was a dreamer, who really wasn't.
Pour moi, il y avait Sam, qui est un rêveur, pas vraiment un pragmatique. Il vivait dans son cocon protégé au sein du ministère. Et il était très malin, parce qu'il avait choisi de ne pas être ambitieux. Et ce manque d'ambition lui permettait de faire son travail sans effort, pratiquement en dormant. C'était trop facile, et il était comme un poisson dans l'eau. Et ça lui évitait aussi d'être responsable de ce que faisait le ministère. Il se disait, je ne suis pas important, je suis en bas de l'échelle. Il vivait dans son rêve.
Il est plus complexe qu'il n'y paraît, ce personnage, en tout cas au début du film, ce personnage de Sam, parce que le rêve, son rêve, le protège aussi d'être un salaud dans cette société parfaitement déshumanisante. Il est au début plutôt gentil, mais quand même consentant, quand même fonctionnaire de ce ministère de l'Information à faire les petites tâches, le sale boulot que chacun est obligé de faire, sauf qu'il va commencer à donner un peu de sa personne pour éviter une erreur administrative. Comment vous le voyez, vous deux messieurs, qui êtes réalisateurs,
la banalité du mal. Personnage. Il incarne la banalité du mal, du fonctionnaire indifférent aux conséquences de son travail de paperasse, jusqu'au jour où il croise la fille de l'homme qui est mort par sa faute, et où il se retourne, et où les choses basculent dans sa tête, vers le milieu du film à peu près.
Héros malgré lui quand même. Hein.
Tout à fait malgré lui, parce que finalement c'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise dans sa niche. Il a un très bon poste que lui ont valu les relations de sa mère. On ne sait pas exactement quelles sont ses relations et jusqu'à quel point elles vont, mais il est dans un poste où il n'est pas menacé par son chef, puisque son chef a besoin de lui et que son chef a très peur qu'il demande une promotion. Et Gilliam décrivait aussi le film. Alors, il y a plusieurs descriptions du film, mais une des descriptions de Gilliam, c'était Walter Mitty rencontre George Orwell ou Kafka. Et Walter Mitty, c'est cette nouvelle de James Verber avec un homme qui rêve. Sa femme est en train de discuter, de lui dire qu'il faut qu'il fasse ceci, qu'il faut qu'il fasse ça. Et lui, dès qu'il entend un petit bruit, un petit son, il part dans un rêve. Et c'est tout à fait ça. Je re-regardais le film hier. Et je me suis aperçu d'une chose, il y a le logo du ministère de l'Information, MOI. Et si on regarde bien, le logo, ce sont les trois lettres qui sont pilées l'une sur l'autre dans un style pseudo-art déco et symétrique. Et le O fait comme une tête, le I, c'est un corps. Et le M, qui est un peu étalé, ce sont des ailes. Et en fait, au début, Sam Lowry est en train de rêver à partir du logo. L'homme ailé qui voit dans ses rêves qu'il est, c'est une extrapolation de ce logo pour moi. Et petit à petit, ses rêves vont inclure de plus en plus son monde et ses problèmes dans son monde, parce que petit à petit, il est aspiré dans l'espèce de mécanique infernale de ce monde qui est complètement vide, mais qui est basé sur des jalousies, des ambitions, des choses comme ça, une paranoïa. Est-ce qu'il y a des terroristes ou pas? A priori, non.
On n'en verra pas un seul dans tout le film.
Il n'y en a pas un seul dans tout le film. Mais on s'aperçoit que les terroristes qu'on nous désigne à la fin, c'est Jill, qui n'était pas une terroriste.
Mais vous n'allez pas nous donner la fin. Vous n'allez pas commencer cette rencontre autour de Brésil.
Je dis juste qu'à la fin, on nous dit qu'on la considère comme une terroriste.
C'est vraiment un film qu'on n'est pas obligé de spoiler. Hein. Autant il y en a eu d'autres dans cette série qu'on a réalisée. Où la fin revient effectivement en permanence, voire dès le début, si elle n'est pas annoncée telle qu'elle dans le film. Autant là, on va quand même réserver l'effet de surprise pour ceux qui ne l'auraient quand même pas encore vu. Brésil, de Terry Gilliam, dont on vous parle aujourd'hui. Alors, deuxième personnage clé du film, l'administration. L'administration et ses arrestations musclées. De celle-ci va naître une erreur administrative qui va coûter la vie à Monsieur Buttle, et non à Monsieur Tuttle.
Thank you. I hereby inform you, under powers entrusted to me under section 47, paragraph 7 of Council Order number 438476, that Mr. Buttle, Archibald, residing at 412 North Tower, Shangri-La Towers, has been invited to assist the Ministry of Information with certain inquiries, and that he is liable to certain financial obligations as specified in Council Order RB/CZ/907/X. Sign here, please. There. Thank you. Same again, please. Just there. Press harder this time. Good.
Oh, what is this all about?
That is your receipt for your husband. Thank you. And this is my receipt for your receipt.
Alors, elle est en version originale. Qui nous raconte cette scène, Philippe Sisbon?
Vous qui avez vu 23 fois le film.
Vous qui avez vu 23 fois le film, effectivement, on vient de la
scène qu'on vient
cette
de
scène d'arrestation, la scène, la première scène d'arrestation, oui. Où arrive par le plafond, par les fenêtres, par la porte, une sorte de GIGN surarmée, qui viennent
arrêter
cet homme.
Oui, Archibald Buttle,
ouais.
À la place d'Archibald Tuttle. Archibald Buttle, ben, c'est un cordonnier qui va être arrêté à la place d'un technicien chauffagiste tout aussi innocent, mais subversif. C'est celui qui est joué par Robert De Niro. Et c'est le point de départ de l'histoire. Pourquoi cette erreur ? À cause d'un bug, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire un insecte tombé dans une imprimante et qui fait que Buttle a été imprimé à la place de Tuttle et donc le cordonnier arrêté à la place du technicien chauffagiste qui refuse de rentrer dans le système, qui refuse d'adhérer à Central Service et qui est perçu comme un dangereux terroriste par les autorités, précisément parce qu'il répare les tuyauteries des gens sans passer par les voies et les formulaires requis.
Voilà, et c'est la voisine du dessus qui sera justement ensuite la femme que Sam va poursuivre, pas simplement dans ses rêves, mais aussi dans la réalité, cette citoyenne aussi dissidente, considérée comme une ennemie de l'État, et qui sera peut-être la troisième dimension de cette histoire, c'est cette histoire d'amour, cette quête de rêve qui se transforme en réalité.
Oui, c'est Jill Layton dans l'histoire, qui effectivement vit au-dessus de l'appartement du cordonnier arrêté, et qui a de l'empathie pour les gens, elle est bien la seule. Du coup, elle va faire une réclamation pour essayer d'obtenir que cette injustice soit levée. Elle va attirer l'attention de la police en faisant cette réclamation. Et c'est en allant faire cette réclamation qu'elle va rencontrer le système et bientôt entrer en contact avec Sam Lowry, qui va reconnaître dans cette camionneuse aux cheveux courts l'incarnation de la femme de sa vie, éthérée, blonde aux cheveux longs. Un peu plus tard dans l'histoire, une perruque fera l'affaire pour leur permettre de vivre une grande nuit d'amour.
Voilà. Le scénario, Stéphane Brisé, vu de l'extérieur, comme spectateur. Ce film, il a été nominé aux Oscars dans la catégorie meilleur scénario original en 86, en même temps que La Rose pourpre du Caire de Woody Allen et Retour vers le futur de Robert Zemeckis. C'est finalement Witness de William Kelley, Pamela Wallace et Earl Wallace qui va l'obtenir, cet Oscar du meilleur scénario original. À tort, pour vous, est-ce que Gilliam et ce film, Brasil, l'auraient bien mérité? Il tient par son scénario?
Il tient par le scénario, mais s'il n'y a que le scénario et pas la mise en scène, il n'y a pas un grand film. Et des grands acteurs aussi. Ce que fait Jonathan Pryce et De Niro, c'est vraiment très extraordinaire. Parce que à l'intérieur de quelque chose d'aussi dingue, et il y a la vérité du jeu, comme de Jonathan Pryce. Alors c'est un code de jeu qui n'existe pas vraiment chez nous. En fait, ce code de jeu très anglo-saxon. Mais il faut quand même qu'il y ait la vérité pour qu'on croie en cette histoire d'amour, qu'on croie à son mouvement intérieur. Parce que c'est quelqu'un, effectivement, c'est quelqu'un de complexe dès le départ. Parce qu'il occupe une place. On parlait de sa place tout à l'heure, mais c'est une place qui est quand même très revendiquée, puisqu'il y a une première autorité à laquelle il s'oppose, c'est l'autorité de sa mère, qui dit, qui est une femme qui voudrait être autre chose que ce qu'elle est, qui ne supporte pas le vieillissement. Donc il y a ces images de la peau tirée de cette femme, ça c'est incroyable. Et il s'oppose au désir de sa mère, qui lui désire pour lui un poste supérieur. Et non, mais je veux pas de ça. Donc à un moment dans l'histoire, ça sera utilisé de manière hyper intelligente pour pouvoir faire continuer le récit et l'intrigue. Alors je me sens très 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 loin de ce genre de construction dramaturgique. En même temps, globalement, presque tous les films sont construits de la même manière. Il y a quelqu'un qui est là, dans un endroit du monde, et puis il y a un élément perturbateur. Voilà, il se retrouve à un endroit, à un moment, et le personnage décide de... S'il décide d'obéir, bah, bon, il n'y a pas de film. Et puis là, il décide de ne pas être le bon petit soldat du système. Et plus il voudra être... s'opposer à ce système, et évidemment, plus ce système sera lourdement hostile. Le scénario est évidemment génial, et alors après, l'histoire est remplie d'acteurs qui ont eu des récompenses à la place d'hôtes pour des films très oubliables. Voilà, et Brazil, son scénario, le film, les acteurs, tout le monde reste. Beaucoup plus que Witness. C'est pas très grave.
C'est pas grave.
Non.
Dans cet extrait, puisque vous parlez des acteurs, on va faire la rencontre de Niro, Monsieur Tuttle, dans le film, qui entre en scène par effraction en réparateur de clim.
What are you doing?
Harry Tuttle, heating engineer at your service.
Tuttle? Are you from Central Services? I called Central Services.
But they're a little overworked these days. Luckily, I intercepted your call.
You did? Just a minute. What was that business with the gun?
Just a precaution, sir. Just a precaution. I've had traps set for me before now. And there are plenty of people in Central Services who'd love to get their hands on Harry Tuttle.
Are you telling me that this is illegal?
Voilà, alors il y a ce personnage de Niro qui veut nous en parler, de Monsieur Tuttle.
C'est un personnage qui, en fait, n'est pas en lui-même le terroriste qu'on présente. C'est simplement quelqu'un qui n'a pas envie de faire de la paperasse, qui est une espèce de chauffagiste freelance qui a l'air d'être quand même bien organisé puisqu'il intercepte les appels. Et il fait ça parce qu'il aime ça. C'est assez absurde. C'est une espèce de super-héros chauffagiste qui intervient pour aider les gens. C'est très bizarre. Et c'est là qu'on commence à se poser la question sur les terroristes, parce que on nous parle dès le début de terroristes, on voit des explosions, mais en fait on voit aussi toutes ces canalisations partout qui ne fonctionnent pas bien. S'il rencontre Sam Lowry, c'est parce que Sam a des problèmes justement avec sa climatisation. Il se retrouve, son appartement devient chaud comme un four, donc il appelle les services centraux, qui ne lui envoient personne, et Harry Tuttle débarque. En plus, c'est Robert De Niro, ce qui est quand même un peu inespéré. C'était le producteur de Terry Gilliam qui lui a dit « Oh ben, je connais bien Robert, si tu veux, il aimerait bien tourner avec toi ». Donc, De Niro aurait préféré faire le rôle de Jack Lint, le vieil ami de Sam Lowry, qui travaille au ministère de l'Information, a un rôle plus important, et qui a sa petite fille et qui vient le voir lorsqu'il travaille, ce qui est assez curieux. Malheureusement, il avait déjà été casté, c'était Michael Palin des Monty Python. Et donc, il s'est rabattu sur le rôle, et il a préparé ça, mais de manière monstrueuse.
Parce qu'il y a des belles cascades, d'ailleurs, dans le film. Hein.
Petit trucage, ouais. C'est une poupée. Mais justement, tous les effets spéciaux sont faits avec des trucages physiques, quoi. Et ça marche très bien. Les séquences de vol de Sam, par exemple, c'est une poupée avec des ailes qui battent, qui est filmée très en accéléré, ce qui fait qu'ensuite on voit, c'est beaucoup plus harmonieux. Les ailes battent lentement, ça prend toute une élégance. Et ça marche.
Il n'y a pas une seule image numérique dans le film, alors que ça commençait à être possible, puisque à la même époque, dans Retour vers le futur, il y avait des images numériques. Puis il avait refusé d'en mettre parce qu'il avait peur que ça date un jour le film. Et de ce point de vue, il a été assez inspiré. Ouais. Sur le casting, on pourrait aussi remarquer que tous les personnages actifs de l'histoire, la mère de Sam Lowry, ou bien le super technicien chauffagiste, ou bien Jill Layton, la femme de sa vie, sont joués par des acteurs américains. Alors que les autres sont des Britanniques pleins de réserves et de timidité. Kubrick avait eu une démarche un petit peu similaire quand il avait fait Barry Lyndon.
Spartacus également.
Et Spartacus, oui. Faisant jouer, notamment dans Spartacus, effectivement, les Romains par des Britanniques, je crois, et les esclaves par des Américains. Il y a le même procédé qui a été reproduit par par Terry Gilliam dans Brazil.
Voilà, vous avez dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que la question déjà des modèles réduits, avec Richard Conway, qui est utilisé notamment pour les scènes de rêve, et aussi pour les scènes, vous le disiez, de cascade à l'instant, Patrick Marcel. Mmh. Et puis il y a le vétéran des effets spéciaux qui est quand même convoqué pour ce film, George Gibbs, qui va travailler avec Terry Gilliam pour Brazil. Vous avez ensuite évoqué les femmes, les héroïnes de ce film, la question des actrices. On a justement un extrait pour vous faire entendre la voix de Ida Laurie, la mère de Sam, très importante.
Et
Catherine Elmond. On fait sa connaissance avec cette scène de chirurgie esthétique que vous évoquiez à l'instant, Stéphane Brisé, où elle se fait tirer la peau, c'est interminable sur les côtés, et où on comprend l'importance de l'apparence dans ce monde, et puis peut-être de ce rêve d'éternité qui n'a pas cessé d'ailleurs de durer et qui est encore valable aujourd'hui.
Dans cette scène, elle se fait tirer la peau pour rajeunir tout en reprochant à son fils de manquer de maturité, ce qui en fait quelque chose de particulièrement délicieux à entendre.
Oui. Et on l'a connue, cette actrice aussi, dans la série Madame est servie.
Hein, et puis Soap aussi.
Soap, oui. Et on la retrouve ici, en Ida, dans Brazil, Catherine Helmond.
He did Brazil. He called me again once on a Sunday and said...
Quand il a fait Brazil, il m'a appelé un dimanche et m'a dit « J'ai un rôle pour toi, je veux que tu le fasses. Mais tu ne seras pas très belle dedans. » Et il m'a dit « Est-ce que tu te soucies de ton apparence ?» J'ai répondu « Non. Tant que le rôle est bon, c'est tout ce qui m'importe. » Donc j'ai fait Brazil. Et ensuite, je n'avais pas la moindre idée que ce serait aussi difficile. Je devais me lever à 4 heures du matin. Et à 5 heures, ils commençaient à coller le masque en caoutchouc sur mon visage. Je ne réalisais pas que j'allais devoir passer 10 heures par jour avec ça. Mais je pense que ça en valait la peine. Parce que le personnage avait un look fabuleux. Nous travaillons simplement merveilleusement ensemble. Et s'il a quelque chose pour moi, il m'appelle et je dis oui. Et j'y vais. Je pense que c'est un réalisateur incroyable. Plein d'imagination. Et il a commencé en étant bédéiste. Donc il est capable de dessiner chaque costume, chaque coiffure, chaque scène et comment vous apparaissez dedans. Et c'est super pour un acteur. Vous vous sentez en sécurité avant de commencer. Et
c'est très bon pour un acteur. Vous vous sentez sécure avant de commencer.
Voilà, on parlait de l'importance de l'apparence pour le rôle qu'elle interprète dans le film, mais pas pour l'actrice, puisque c'était la première question que le réalisateur lui a posée. Est-ce que tu te soucies de ton apparence ? Heureusement, elle a répondu non. Des conditions de tournage pas faciles, hein, parce qu'il fallait revêtir le masque en caoutchouc, comme elle le raconte.
Oui, elle a été très irritée par le masque et elle a beaucoup souffert du début à la fin par les maladies de peau que tout ça lui avait occasionné. Elle a voulu quand même aller jusqu'au bout de l'interprétation, mais elle a mis plusieurs mois à s'en remettre.
Oui, parce qu'il fallait donc la vieillir au début pour qu'elle rajeunisse ensuite.
Elle rajeunisse à l'issue de l'opération de chirurgie esthétique à base de...
Ce qui lui a évité une vraie opération.
Ouais. De papier plastique, là. Puis, elle jouait normalement, puis elle était rajeunie vers la fin, et tout à fait à la fin, elle est interprétée le temps d'un plan par Kim Gray. Alors, beaucoup de gens, du coup, ont vu des connotations oedipiennes dans cette substitution. Et le réalisateur a dit qu'il n'était juste pas parvenu à la rajeunir suffisamment. Il avait demandé à Kim Grace de prendre le rôle le temps d'un plan.
Voilà, il y a de l'Oedipe, il y a du Freud aussi, avec cette séquence des monolithes qui surgissent, racontée comme telle par l'équipe du film. C'est à la verticale, avec l'idée du rêve et de l'érection, donc, qui serait rapprochée du côté de la dimension sexuelle des rêves. Il a vraiment réuni pour ce film toute sa bande d'acteurs. Il faut donc rappeler un peu qui est Terry Gilliam, avant Brazil et après Brazil, rappeler les Monty Python.
Alors, c'est un Américain déjà, enfin...
Né américain,
il est né américain,
naturalisé britannique.
Voilà, il a fait une grande partie de son enfance en Californie. Ensuite, il est parti travailler sur la côte ouest parce que son idole, c'était Harvey Kurtzman, comme le patron de Sam Lowry dans Brazil. C'est un hommage. Qui était le créateur de la géniale revue Mad Magazine, qui a été une révolution dans les magazines d'humour américains. Et il est arrivé au moment où Harvey Kurtzman était sur un magazine qui s'appelait Help. Et il l'a aidé pendant un temps. Ensuite, pour éviter le Vietnam, il a fait tout un tas de magouilles qui seraient trop longs de raconter.
Oui, trop long.
Mais il a beaucoup couru l'Europe. Il a fait des bandes dessinées pour Pilote, pour René Goscinny.
Ouais.
Il a ensuite est allé en Angleterre. Là, il s'est plus ou moins fixé. Il a commencé à travailler. Il était intéressé par l'animation. Il a commencé à travailler avec une technique de papier découpé qui était très populaire. Et de fil en aiguille, il s'est retrouvé avec les 5 autres membres des Monty Python à former un groupe dont il a été il a fourni l'identité visuelle. Mmh. Et il était de plus en plus intéressé par la mise en scène. Il a co-dirigé Sacré Graal. Il a été directeur artistique sur La Vie de Brian. Et puis, entre-temps, il avait d'ailleurs tourné Jabberwocky, son premier film solo. Et ensuite, il commençait à y avoir une dérive qui s'est concrétisée dans La Vie de Brian. Il a fait un court-métrage, qui a coûté assez cher d'ailleurs, et que les Pythons n'ont pas trouvé de place pour intégrer dans le film. Et donc, il faisait l'ouverture du film. C'est une histoire de vieux agents d'assurance qui décident de devenir des pirates, de détacher leur immeuble et de partir sur les mers de la finance pour les piller. Enfin, c'est un truc tout à fait bizarre.
Sorte d'avant-programme au sens de la vie.
Voilà, oui, oui. C'est comme si c'était un court-métrage avant le film. Et il y aura une scène dans le film où, d'un seul coup, on rajoute le truc et on fait la liaison avec ça. Et à partir de là, il est parti pour faire Bandy.
Il a pris la nationalité britannique en 68 et il a renoncé à la nationalité américaine en 2006 en guise de protestation contre la politique de Bush.
Et il s'est installé définitivement.
Voilà.
Ouais. En Angleterre. Alors, on disait, il a retrouvé sur ce film Brésil un certain nombre de ses comédiens et en tout cas d'acteurs britanniques que vous citiez tout à l'heure, qu'il côtoyait ou avec lesquels il aimait tourner. Est-ce qu'on retrouve le Terry Gilliam des Monty Python ?
Les Monty Python, c'était une œuvre par épisode, souvent par sketch. Même dans les longs métrages. Et pour la première fois dans Brésil, il suit une histoire avec un arc dramatique très large, qui n'est pas du tout composé par épisode, et c'est une narration un petit peu nouvelle pour lui, quoi. En revanche, l'absurde est le même que celui de Monty Python, et c'est vraiment le nonsense à la britannique qui est poussé dans ses dernières extrémités, dans les uns comme dans l'autre.
Ainsi que la contestation d'une certaine conformité, les Monty Python avaient comme tête de turc souvent les comptables. Et évidemment, l'administration. Et là, forcément, l'administration dans Brésil, on retombe en plein dans les bêtes noires des Monty Python.
C'est le sujet même du film.
Oui, tout à fait.
Alors, le film a été réalisé en 1984, en gros, puisqu'il est sorti en tout cas en 85. Et on imagine bien que c'est d'abord une réponse quand même aux prophéties de Orwell. Hein. On a parlé de l'influence de Kafka, Orwell 1984, bien sûr aussi. C'est son interprétation du livre en temps réel. Hein.
Il dit qu'il ne l'a pas lu. Mais lorsque le film est sorti, parce que bien sûr en 84, Michael Radford a fait une adaptation. Et il est allé voir le film et il était horrifié au début parce qu'il a dit, il y a tout, c'est une catastrophe, je vais sortir mon film et ça va l'air d'être dit. Puis finalement, il est sorti content parce qu'il s'est aperçu que c'était pas du tout le même sujet et que c'était suffisamment différent pour que chacun ait sa vie propre.
On ouais. peut considérer d'ailleurs que Brésil constitue la vraie adaptation de 1984, traduit réellement l'esprit de 1984 bien plus que les films de 56 et de 84.
Alors c'est un film dit de science-fiction, est-ce qu'il nous parle du passé, est-ce qu'il nous parle du présent, est-ce qu'il nous parle de l'avenir? Ben, on va voir ce qu'en dit le réalisateur Terry Gilliam, et puis après, je voudrais bien vous entendre là-dessus, Stéphane Brisé.
It doesn't try to answer all the questions of the modern world. It never did.
Brésil ne tente pas de répondre à toutes les questions que pose le monde moderne. Il ne l'a jamais fait. On peut le critiquer facilement, mais il y a là de la sensibilité. Et c'est ce dont il est vraiment question dans Brésil. Fondamentalement, ce dont je parle dans Brésil, c'est de la responsabilité individuelle. Quand j'ai fait Brésil, ce n'était pas à propos de la science-fiction, c'était à propos de maintenant. J'ai essayé de faire le passé, le présent et le futur en même temps. Ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que la science-fiction, si elle est utilisée, c'est en tant que moyen de projeter nos peurs et nos rêves vers où nous allons, ou ce que nous pourrions devenir. Là, elle devient très intéressante, car on peut l'utiliser comme un signal de danger. Attention, c'est là que nous allons. Stop, avant qu'il ne soit trop tard.
Qu'est-ce que la science-fiction lui permet, à Terry Gilliam, pour vous, Stéphane Brisé?
En fait, il est à l'endroit de la fable. Rien du monde qu'il crée à l'écran n'existe en vrai. Et pourtant, depuis le départ, on parle de terrorisme, de chirurgie esthétique, d'administration délirante. Globalement, on parle de notre monde, quoi. Et dans chaque séquence, on a vraiment l'impression qu'il est au plus proche de notre monde. Et moi, c'est une réflexion que je me fais depuis que j'ai commencé à faire des films dits politiques. C'est des films que je construis à partir de témoignages. Hein. Et la réalité, c'est que systématiquement, je suis obligé de réduire la voilure de ce réel pour que c'est l'air vrai. Par exemple, dans La Loi du marché, j'étais dans un hypermarché, j'ai vu une femme qui avait l'air ni pauvre ni riche, qui s'est fait interpeller, elle avait volé quelques trucs. Et un des agents de sécurité, c'était un monsieur noir, et dans la petite salle où elle était interpellée, elle lui disait réellement « Toi, Banania, comprends-moi ce que je dis, toi, pas comprendre, évidemment. » J'étais tellement interloqué qu'elle m'a regardé en me disant « Et lui, le Portugais, là, qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça ?» Son mari déboule dans la pièce en criant « Vive Marine !» On est à des niveaux de délire. Cette scène-là, je l'ai réécrite sur le scénario. Et quand je présentais le scénario, on disait « Non, il est bien, c'est bien ton truc. » Non, sauf la scène avec la femme, c'est n'importe quoi. Et c'était la seule scène retranscrite pourtant exactement du réel. Donc, dans un film réaliste, en reproduisant le réel, on n'est pas forcément crédible.
C'est ce que permet la science-fiction pour vous, Terry Gilliam, hein, d'extrapoler, de tirer, d'étirer, d'agrandir le réel. Et finalement, en mettant ce coup de projecteur, ce coup de loupe sur le réel, de le rendre non pas plus acceptable, loin de là, mais beaucoup plus inquiétant et plus réel que le réel.
Extrêmement réel. Ouais, et c'est vrai que la réflexion, c'est pas un film de science-fiction, mais le film qui avait eu la Palme d'Or la dernière, Triangle of Sadness, ça c'est le titre anglais, comment il s'appelle Voilà, en tout cas, ce film-là qui est une
farce. De Ruben Östlund, hein, mais j'arrive jamais non plus le titre en français, Triangle of Sadness.
Ce côté farcesque raconte notre monde d'une manière extrêmement précise et extrêmement juste.
C'est un point de référence qui est changé, en fait. La science-fiction, c'est ça, c'est changer l'angle sous lequel on voit une situation. Et d'un seul coup, en changeant le point de vue paraît étranger. Et des choses qui sont familières choquent davantage, alors qu'on les voit tous les jours. Mais il y a ce décalage qui, d'un seul coup, amène la différence.
Mais alors, justement, sur le monde du travail, Stéphane Brisé, vous l'avez aussi filmé, raconté avec vos films. On voit ces formulaires, on voit ces règles, on voit ces tampons, on voit cet archivage qui dévore en fait le quotidien de ses employés, la répétition des tâches, l'aliénation, hein, comme on dit aussi, du travail. Mais il y a ce regard très particulier. Est-ce qu'il est prophétique à ce moment-là, en 85, Terry Gilliam, ou est-ce qu'il parle déjà de son temps ?
Bah, vous dites qu'il n'a pas lu le livre 1984, mais dans le film, il y a un échange de dialogue qui dit... c'est Richard Burton qui a la parole à ce moment-là. Il est avec John Hurt. John Hurt est sur la table de torture. Et il pose la question, comment les hommes imposent-ils leur pouvoir à d'autres ? En les faisant souffrir. L'obéissance ne suffit pas. Le pouvoir, c'est infliger la douleur et l'humiliation. Sinon, il reste un doute. Le pouvoir, c'est déchirer les esprits des hommes et les réassembler à son gré. Et c'est ce que raconte le film de Terry Gilliam. Et c'est... je pense, sans exagération, le monde dans lequel on vit.
Et la liberté face au pouvoir, elle est où ? Il la situe où, Terry Gilliam ?
Il n'y a pas de liberté. Ce qui nous dépasse, c'est une parodie de notre civilisation. C'est-à-dire, c'est un monde totalement creux. Il n'y a rien. Il y a du consumérisme pour ceux qui sont les...
Il n'y a pas d'espoir dans ce film pour vous.
La liberté, c'est le rêve aussi. Finalement, le seul endroit de liberté que Sam Laurie peut s'octroyer, en fait, c'est...
Oui, mais ça va l'attirer quand même dans de gros ennuis.
Oui, certes, mais en même temps, c'est à la fois au début du film un endroit de quiétude pour lui, dans un monde complètement délirant. Et c'est, alors on ne va pas spoiler, mais c'est aussi...
Un refuge.
L'endroit qui le protégera de l'extrême souffrance, plus tard, dans le film.
Et oui, et ce rêve et cette question-là, cette imbrication qu'il peut faire à un moment entre le rêve et réalité, c'est une autre dimension très importante de ce film, Brasil, de Terry Gilliam. Pourquoi et comment, surtout, hein, il a voulu entremêler ces deux dimensions. On va l'écouter aussi raconter ce monde de la bureaucratie qu'il aborde.
That's why I hate bureaucracies. Because they're an excuse for people not behaving.
C'est pour ça que je hais la bureaucratie. Parce que c'est une excuse pour éviter d'entretenir ces relations humaines entre les individus. Parce que il y a une loi, des règles. Ces lois sont inscrites dans des bouts de papier. Toutes ces choses sont faites pour éviter d'entretenir des rapports plus complexes entre les personnes. Je me suis plus particulièrement intéressé à la paperasserie et aux formulaires. La vie de chacun est réduite à quelques feuilles de papier. avec leurs noms et quelques statistiques dessus. N'importe quelle organisation ou société moderne fait ça. Elle tente de mettre des noms et des chiffres sur les choses pour qu'on puisse les rentrer dans des ordinateurs.
How much do you know about this? Not much. What does B58-732 mean to you?
Bottle.
I knew it. Always were bloody quick, Sam. Who else knows?
What?
Helpman?
I don't know. I only know you got the wrong man.
Information transit. Got the wrong man. I got the right man. The wrong man was delivered to me as the right man. I accepted him on good faith as the right man. Was I wrong?
You killed Buttle.
There are very rigid parameters laid down to prevent such things happening. And it wasn't my fault that Buttle's heart condition didn't appear on Tuttle's file.
Come on, look. How are you getting on?
Jack. A, B. I really need to know about
Tuttle. Well, we're going to have to bring Mr. Tuttle in, aren't we? And interrogate him at the same voltage as Mr. Buttle. And juggle the books and electrical banking.
What has Tuttle done?
We suspect him of freelance subversion.
Freelance subversive?
Then all I need to wrap up the case is the Leighton woman.
What has she done?
Well, she witnessed the Tuttle, the Buttle arrest. Since then, she's been going around making wild allegations, obviously trying to exploit the situation. She's working for someone, and I don't think it's us.
That's it. Over there, Dan. Terrorist.
Good.
Voilà, j'aime bien cette idée qu'on retrouve dans cet extrait de la bureaucratie avec ces formulaires qui viennent s'intercaler entre les individus, hein, comme des murs qui empêchent les échanges. Et là, on vient d'avoir l'extrait qui nous raconte l'arrestation du mauvais suspect. Ça, c'est quand la bureaucratie se plante. Et là, l'humain ne peut même plus s'opposer, critiquer, contester. Il est perdu dans un espèce de monde complètement froid, un monstre de paperasserie qui l'empêche même de faire entendre toute critique ou toute remarque là-dessus. Hein.
Il y a dans cette scène un petit détail qu'on remarque sur grand écran. Le tortionnaire amical, joué par Palin, a un masque posé sur un paravent dans le décor. Le masque un peu mongoloïde qui va servir ensuite à caractériser dans les fantasmes de Sam Lowry les forces des ténèbres. Mmh. Et de cette façon, il y a une anticipation, il y a une révélation un peu subtile pour les spectateurs attentifs de ce que cet ami fait partie du club des forces du mal. Et c'est celui qui torturera Sam Lowry un peu plus tard avec le même masque mongoloïde des forces des ténèbres, aussi bien dans les fantasmes de Sam Lowry que dans la réalité lorsqu'il s'agit de le torturer réellement.
D'ailleurs, ce masque prouve que Sam sait ce qui se passe au ministère des recoupements.
Oui, c'est banalité du mal en question.
Ça. D'ailleurs, son ami Jack Lint le reçoit avec son tablier taché de sang. Parce qu'il vient de terminer un interrogatoire.
En fait, Sam, il ne veut pas savoir ce qui se passe. Ce qu'il veut, c'est avoir la fille. Et comme la fille est censément une sorte de résistante à ce système, ses yeux sont légèrement dessilés jusqu'au moment où elle... Ah, mais faut pas spoiler, bien sûr.
Non, faut pas. Mais faut inviter surtout ceux qui nous écoutent à voir Brésil, si ce n'est pas encore le cas, ou une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, on peut aller jusqu'à la 23e fois, comme vous l'avez fait.
Si vraiment on veut comprendre tout le scénario.
Si on veut tout comprendre, et encore pas sûr que vous ne le reverrez pas une 24e fois. Justement, parlons un peu de votre premier ressenti de spectateur. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu le film ?
J'ai vu le film à sa sortie en 1985. J'avais 20 ans et j'avais rien vu de tel. J'étais stupéfié par la complexité du scénario. Ce type de narration n'était pas habituel. J'étais surpris par la dystopie, la contre-utopie, ce monde imaginaire et qui ressemblait tellement au nôtre et aussi qui ressemblait au monde des années 50. Et le mélange des deux m'avait désarçonné. Et accessoirement, c'était l'époque où ma grand-mère venait de me révéler qu'elle avait fait partie de la résistance. Ce qu'elle m'avait jamais dit, j'avais 20 ans et j'avais découvert ça la semaine précédente. Et du coup, cette histoire de résistance dans Brésil, j'y ai été très sensible. Et je me souviens, quand je suis sorti de la salle, j'ai marché toute la nuit dans Paris pour penser à ce que je venais de voir et infuser.
Oui, comment résister dans une société aussi autoritaire aussi? Comment être humain quand tout autour de vous est là pour déshumaniser? Vous, Stéphane Brisé, premier ressenti de spectateur devant ce film?
Moi, à cet âge-là, en fait, j'étais pas un cinéphile nourri de cinéma. Je peux même dire qu'à cet âge-là, j'avais globalement rien vu et rien lu. À part vu tout Louis de Funès et tout Belmondo. Et c'était ça. Donc c'est un film que j'ai vu plus tard, sans aucun doute, sans tout comprendre, parce que j'ai compris les choses un peu lentement. Impressionné, évidemment, c'est par la puissance visuelle, mais j'ai toujours été impressionné par les artistes qui imposent leurs gestes, en fait, qui imposent leur monde. C'est quelque chose qui m'a toujours nourri, même des fois sans forcément comprendre. J'ai toujours été impressionné par David Lynch, Terry Gilliams, parce que il y a une puissance artistique, une puissance du geste qui est imposée, mais Bergman impose son geste à sa façon, Almodovar, Cano, tous ces grands. Et il y a quelque chose dans des univers très différents. C'est certainement là où ça m'a nourri le plus, c'est dans la nécessité d'imposer son geste à soi, quelle que soit la manière dont il s'exprime.
Allez, on est avec nos trois invités aujourd'hui pour évoquer Brazil. Comment ce film a changé le monde ou a changé notre monde, votre monde à vous, Stéphane Brisé, cinéaste, réalisateur, je le rappelle, de La Loi du Marché jusqu'à Un Autre Monde. Philippe Sisban, réalisateur également, scénariste et auteur des ovnis du cinéma fantastique et de SF. Vous allez peut-être nous dire si oui ou non. Brazil est un objet filmique non identifié. À nos côtés également le traducteur et essayiste Patrick Marcel, qui a réfléchi lui aussi au Monty Python et qui connaît bien l'œuvre de Terry Gilliam.
France Culture, les films qui ont changé le monde. Olivia Gesbert.
Alors on va sur ce film, OVNI, objet filmique non identifié. En quoi? Pour vous, Philippe Sisban, Brazil entre dans cette non-catégorie.
On parlait tout à l'heure de science-fiction, mais est-ce bien un film de science-fiction alors que c'est une dystopie qui semble sortie des années 40 et dans le meilleur des cas des années 50? On a pu dire que c'était une comédie, et c'est vrai qu'il y a des gags géniaux, et en même temps, si on révèle la deuxième partie du film, on se rend compte que c'est aussi une tragédie. Ce n'est pas un film de science-fiction, ce n'est pas un film de résistance. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Non, c'est pas une histoire d'amour non plus, puisqu'il y a une éviction en cours de route de l'histoire d'amour qui contrecarre toutes les règles scénaristiques hollywoodienne. Et puis, il y a l'effet produit sur le spectateur à la fin du film, la fin que donc on va pas révéler, qui est absolument contraire aux usages de la profession, du moins dans la version européenne, puisque le film existe en trois versions. Une américaine de 94 minutes, destinée surtout à la télévision, qui a été sous-titrée L'amour conquiert tout. Une autre également américaine qui fait, je crois, 132 minutes, et puis la version européenne qui fait 142 minutes, dont le final est totalement stupéfiant et fait définitivement sortir le film des dernières catégories où on pouvait espérer le ranger. L'ayant vu, on essaye de le raconter aux amis, on essaye de les convaincre d'aller le voir, et ils sont dubitatifs, ne comprenant pas s'il s'agit de fantastique, de films politiques ou d'une série de gags collés les uns aux autres comme des sketchs des Monty Python. Le film ne rentre dans aucune catégorie identifiable, d'après moi, et procure des sentiments dans le spectateur tels qu'on en ressort tout à fait différent de ce qu'on est rentré dans la salle. Et ça, c'est pas courant non plus. Bref, c'est un ovni.
Oui, ce qui est intéressant aussi, Patrick Marcel, c'est que c'est un film multi-référencé. Il y a du Kubrick, il y a du Hitchcock, il y a du Fritz Lang dedans. On retrouve l'obsession.
Il y a du Eisenstein.
Oui,
il y a un moment, il y a une descente des marches qui est...
C'est le Potemkin.
Potemkin, voilà, tout à fait.
Exactement, il y a du Kurosawa aussi avec le samouraï géant, qui est quand même un clin d'œil aux sept samouraïs. Donc multi-référencé, multi-influencé pour Terry Gilliam. Et en même temps, c'est quand même un film qui fait rupture dans l'histoire du cinéma. Pourquoi, pour vous, quelle vision du cinéma Terry Gilliam nous offre-t-il aussi sa vision du cinéma à travers ce film?
Je pense que ça tient beaucoup à son visuel. C'est un artiste visuel très fort. Il conçoit ses films avec des storyboards, des séquences d'images. Il dessine ses idées de costumes. Il y a des directeurs artistiques, il y a des costumiers, il y a des gens qui proposent des choses et qui prend. Tout Brésil est une espèce d'agrégat, c'est-à-dire qu'il a ajouté des idées, il a malaxé. C'est ce qui donne aussi cette structure un peu bizarre, c'est que ça fonctionne parce qu'il y a évidemment une ligne directrice, mais en même temps, il y a des tas de choses qui s'ajoutent, des éléments qui font sens, qui s'entrechoquent, ce qui fait que c'est un film où on se dit, tiens, ça c'est peut-être une référence à une chose qu'on a vue plus tôt, et donc ça crée une espèce d'univers très cohérent dont on n'arrive pas quand même à saisir toutes les parties. Donc ça apporte une qualité intrinsèque qui me semble très forte. Et puis, il y a ce visuel qui s'était déjà imposé avec ses animations pour les Monty Python. C'est ce qu'on retient aussi des Monty Python, pas seulement les gags, mais aussi cette atmosphère victorienne, édouardienne, bizarre. Ça. Oui.
Oui, ça. Non, quel est ce beau livre que vous
avez
amené
avec vous ?
Ah,
ça, c'est Mémoires prépostumes.
Voilà. Les Mémoires prépostumes de Terry Gilliam.
Oui,
on voit son visage. Gilliamesque, donc ouais. C'est le titre publié chez...
Chez Sonatine, en France.
Vous nous le recommandez ?
Oui, tout à fait.
Parce que ça permet d'entrer dans la tête du cinéaste.
Absolument, c'est un livre qui est très illustré avec ses croquis, avec ses photos, qui raconte lui-même avec son ton, qui est assez exalté. On sent quand même que c'est un personnage qui est très vivant, très exalté. Et ça se lit, c'est très rapide, il ne rentre pas toujours dans les détails, mais c'est vraiment très intéressant.
Et passionné, et touche à tout.
Sur toute sa carrière, oui.
La BD, il y a évidemment le cinéma, puis on l'a retrouvé récemment aussi à l'opéra.
Tout à fait.
Comme metteur en scène. Bon, vous avez tellement envie qu'on parle de la fin, on va quand même pas la donner toujours pas à ceux qui nous écoutent. Mais il faut raconter ce que vous avez commencé à évoquer, Philippe Sisban, pour l'auditeur, que ce film a été très compliqué. Pas tant à finir d'ailleurs qu'à sortir. Le réalisateur a dû s'opposer fermement aux demandes de son studio américain Universal, qui voulait notamment qu'il change de fin et termine sur une note heureuse. Il a longtemps été empêché de sortir. Il y a eu une véritable campagne médiatique du réalisateur, du cinéaste réalisé pour faire libérer son film des studios. On écoute Terry Gilliam à propos de cette fin telle que lui l'avait imaginée et telle que les studios voulaient la changer.
Ce qui est intéressant, c'est que l'immeuble du siège social d'Universal est comme les monolithes dans Brésil. C'est une tour noire. Tous les gens doivent porter des costumes gris. C'est obligatoire. Donc l'ironie, c'est qu'on est arrivé exactement dans la bureaucratie dont Brésil se moquait. Et les gens d'Universal étaient rigides et puissants. Et ils ont décidé que pour distribuer le film, il fallait changer la fin. Ils voulaient une fin heureuse. Ils avaient décidé que le thème principal devait être « L'amour gagne toujours ». Mais ce n'est pas le sujet. Le problème des gens qui font de la télé ou du cinéma, c'est qu'ils s'efforcent d'inciter les gens à ne plus penser. Et c'est ça qui m'attriste vraiment.
Voilà encore, hein, télescopage entre l'imaginaire du réalisateur et la réalité.
Hein. Oui, et puis aux États-Unis, le réalisateur n'est pas propriétaire de son film, en fait. Donc le producteur peut imposer pour une sortie un montage. C'est arrivé des centaines de fois. Orson Welles a été confronté à ça X fois dans toute sa carrière. Et c'est ce qui est toujours assez dingue quand même, c'est comment... Le film peut exister, parce que quand même, il y a des gens qui le lisent, il doit avoir fait des dessins, il a un scénario. Le film existe, mais à un moment, il y a des gars qui disent « Ben non, ça sera pas comme ça ». Et donc, j'imagine la souffrance absolue du réalisateur de voir son film, là, amputé. Il y a une version de 90 et quelques minutes, alors que le film fait 140 minutes, c'est ça hein.
Oui, puis qui termine par une happy end, alors que c'est pas du tout comme ça qu'il l'a conçu, par la fameuse scène d'amour.
Effectivement, c'est ce qu'il raconte, il se retrouve dans le réel, face à une administration là, de la production, qui est aussi délirante et aussi dingue que celle qui met en scène dans son film. Et là où le mec est aussi génial, c'est qu'il fait toute une campagne... En se mettant les journalistes dans la poche, il fait des projections pirates privées. Exactement. À des journalistes pour que finalement le film parvienne à s'imposer dans sa forme définitive ou quasi définitive, en tout cas celle qu'il a désirée. Et en Europe, on a accueilli le film comme il était désiré par Terry Gilliam.
C'est un peu ce qu'il a sauvé parce qu'il avait en fait deux principaux producteurs. Un, c'était la Warner, je pense, pour l'Europe, où le film est sorti normalement dans sa version complète. Et universal pour les États-Unis ou pour 10 minutes qui étaient passées, étant donné que les cadres n'étaient pas emballés par le film, il a commencé à avoir tous ces problèmes.
Il y a juste quelques répliques, et je pense qu'on a, on a tous nos répliques phares ou cultes de ce film Brésil. Pour ma part, j'aime beaucoup celle qui est au début, avec ce haut fonctionnaire du ministère qui parle à la télé. On n'a pas parlé de la dimension terroriste, plutôt un peu plus résistante aussi, mais c'est vrai que ça commence par des scènes d'attentats qui sont bien chargées, notamment celle du restaurant. Et devant la télé, communiquant à la population, il dit, le journaliste lui demande, la guerre terroriste en est à sa 13e année, et là, le fonctionnaire répond, la chance du débutant. Voilà ce qui nous attend peut-être aussi sur cette prédiction du film de Terry Gilliam, s'habituer à tout et à tant de choses. Terminer avec vous, Philippe Sisban, sur une question de réception. Est-ce que vous savez comment le film a été reçu à l'époque? Parce que vous le disiez, Stéphane Brisé, tout à l'heure, il y a des films qui entrent dans la postérité bien longtemps après, qui sont reconnus plus tard, avec le temps.
Aux États-Unis, le film n'a pas marché en salle. La version de 94 minutes était presque incompréhensible et absurde. En revanche, il a pu sortir en vidéoclub et c'est devenu un succès de vidéoclub.
C'est fou ça.
Le film a eu un grand succès dans sa version longue, ou assez longue en tout cas, de 2h23, en vidéoclub où les gens se précipitaient pour voir ce qui leur avait été interdit et ce qu'ils ne pouvaient pas voir à la télévision où le film sortait dans la version de 1h30. Et ce qui est fou dans cette affaire, c'est d'une part que le serpent se mord la queue et qu'il y a une mise en abîme folle de ce qui est décrit dans Brésil et avec ce que a vécu Terry Gilliam, c'est-à-dire que ce qu'il dénonçait, il a fallu par une ironie de l'histoire qu'il le vive et qu'il soit lui-même confronté à l'absurdité bureaucratique. Et d'autre part, il faut savoir que par exception, le contrat de Terry Gilliam prévoyait qu'il aurait le final cut. Et c'est à cause des 2 ou 3 minutes ou 10 minutes de dépassement que ce final cut qui lui était accordé par les Américains lui a exceptionnellement été retiré pour qu'il le massacre avec le happy end dont on parlait.
Bon, voilà, mais réception du mitigé au début aux États-Unis.
Succès de vidéoclub. Et en revanche,
en Europe
et en France, vrai succès. Le film a fait, je crois, 1 million d'entrées en France. Grande consolation pour son réalisateur.
Merci. 40 ans plus tard, on peut faire 1 heure d'émission dessus.
Exactement, Stéphane Brisé, c'était le mot de la fin.
Le seul territoire que les dictatures nous laissent, c'est le rêve.
Et le deuxième mot de la fin revient au cinéaste français d'origine roumain, Radu Mihăileanu. Sophie-Catherine Gallet a programmé et préparé cette émission comme elle l'a fait pour toute cette série des 10 films qui ont changé le monde. Énorme merci à elle. Un grand merci à Félicie Faugère à la réalisation aujourd'hui encore, qui a sélectionné des extraits, ces extraits d'entretien notamment de Terry Gilliam, du film. Merci beaucoup à Ruben Kermesin qui est à la technique avec nous aujourd'hui pour cette spéciale Brésil de Terry Gilliam. Vous pouvez réécouter, vous repasser cette émission, cette conversation autant que vous le souhaitez. Les films qui ont changé le monde, c'est aussi un podcast France Culture à retrouver sur l'application Radio France.